Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. L'Univox de cette semaine se passe à Clermont-Ferrand. À l'heure où l'on parle d'une génération hyperconnectée ou génération Y, quelle forme prennent aujourd'hui ces nouveaux médias et quelle utilisation les étudiants en ont-ils ?
Nous sommes allés à la rencontre d'étudiants à l'origine de médias de toutes sortes, journaux, magazines, web radio, sites internet, pour en apprendre un peu plus sur les origines et les formes que peuvent prendre ces nouveaux espaces de communication.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux éditions et journaux universitaires. Comment ces étudiants et leurs professeurs parviennent-ils à mettre en avant une formation ou une discipline ?
Nous avons rencontré Myriam Lépron du service Université Culture de Clermont-Ferrand qui a évoqué avec nous la revue Terre d'encre.
Alors c'est une revue qui existe depuis déjà très longtemps, qui portait pas le même nom à l'origine, elle a plus de 20 ans maintenant, et elle est basée sur les textes des étudiants qui sont sélectionnés, lus. Cette année, nous avons une auteure en résidence, Fabienne Jacob, qui a relu tous les textes des étudiants avec moi. Et on établit donc une sélection. Ces textes ne viennent pas de nulle part. C'est un thème qu'on a eu toute l'année pendant l'atelier d'écriture sur littérature et sport. Et avec des écrivains qui ont été invités tout au long de l'année. Donc 3 écrivains qui, eux aussi, ont leurs textes inédits qui vont être publiés dans cette revue qui va sortir le 5 mai. C'est important qu'ils aient un autre accès à l'écriture que l'écriture universitaire. C'est une liberté aussi, c'est une liberté de pensée, une liberté d'expression qui me paraît très importante. J'ai pensé à un moment donné à utiliser seulement le format numérique. Et en fait, les étudiants sont très attachés à ce format papier. Ils peuvent l'offrir, ils peuvent le faire acheter par leur famille, ils peuvent le prêter, ce qui est apparemment pour l'instant beaucoup plus simple et un geste beaucoup plus symbolique d'un point de vue littéraire, d'avoir cet objet en main. Donc c'est pour cette raison-là qu'on continue à utiliser le papier. Et puis cette année aussi, pour la deuxième année, il y a aussi des gravures de l'atelier gravure du service Université Culture, qui est encadré par Lionel Ballard. Et je trouve ça toujours plus intéressant sur papier que sur écran. La faculté aide à la création de ce projet en insérant cet atelier dans des possibilités de choix des étudiants. C'est un atelier qu'ils peuvent valider et qui va valider leur année. Ensuite, c'est aussi un financement évidemment qui vient à la fois du service Université Culture et puis de l'Université Blaise Pascal. On a aussi un partenariat parce que les temps sont un peu difficiles financièrement avec les restrictions budgétaires. Donc cette année, on a un partenariat avec la librairie Les Volcans et Biblioverne qui nous finance une partie de la venue des écrivains.
Univox. Nicolas, de l'association étudiante Pontareil, nous a présenté le journal Le Ciron.
Donc Le Ciron est un journal qui est géré par des étudiants en philosophie et dont le troisième numéro vient d'être publié. En fait, c'est une référence à un fragment des Pensées de Blaise Pascal où l'homme est comparé à un ciron, c'est un petit ver. Et donc Pascal fait le rapprochement entre la condition de l'homme et celle de ce ver. Donc le premier numéro est paru au printemps dernier. Donc en réalité, l'association était plus ancienne, elle a été reprise puisqu'elle avait été fondée par des étudiants, d'anciens étudiants. Non, je pense qu'il y a vraiment un plaisir du texte qui est différent selon qu'on lise un journal ou qu'on lise sur un ordinateur. Les articles ne sont pas forcément sous forme écrite. Donc ça peut être déjà sous forme visuelle, par exemple, ce genre de choses, avec des dessins. Donc on essaie un peu de soigner la texture, la mise en page, etc. On essaie de faire varier aussi des schémas. Enfin, tout est acceptable et accepté. Donc voilà, visuellement, c'est pas la même chose.
Les étudiants d'histoire-géographie ne sont pas en reste avec leur journal Le Colporteur. Hugo nous a présenté ce projet.
On avait fondé le colporteur l'année dernière, c'est un journal étudiant en fait, où les étudiants peuvent rassembler différents articles sur des sujets qui les intéressent, et on les publie voilà, sous une forme la plus agréable possible, avec des mots croisés, des jeux aussi pour agrémenter le tout. Mais voilà, c'est un moyen pour les étudiants de pouvoir publier certaines de leurs travaux personnels voilà, au sein d'un journal.
De son côté, Enki s'est confié sur les avantages du format papier ainsi que sur l'intérêt de la diversité dans ce journal.
Je pense que le format papier, c'est aussi quelque chose qu'on touche, qui est concret. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, ça marque les étudiants plus que si simplement on déposait ça sur un format PDF, sur un blog. Là, ils ont le papier entre les mains et ils se sentent pas obligés de le prendre, mais ils sont contents de l'avoir et ils le prennent de bon cœur. Alors que je pense pas que si c'était un PDF téléchargeable, on aurait autant de choses, autant de retours, autant de gens qui viendraient nous prendre ces journaux. Là, on a quelque chose de concret. Déjà, je trouve que pour l'équipe, et ça, on est plutôt d'accord là-dessus, quand on tire le journal après un mois de travail, on est content d'avoir le journal entre les mains. C'est un bel aboutissement. Voilà. Et puis, je pense que pour les gens, c'est un vecteur de communication qui est plus concret, qui leur parle plus, même si forcément le numérique est beaucoup plus envahissant et voilà, fait partie du quotidien. Le journal, il laisse une trace réelle. On le perd, voilà, il est concret. Voilà. On a une équipe très mixte aussi, c'est pour ça que ça nous tenait à cœur. On a des gens, la fac est un endroit aussi de militantisme et il y a beaucoup d'opinions qui se rejoignent. Et on a essayé de regrouper dans l'équipe des gens de tout bord. Et c'est très intéressant pour ça parce que du coup chacun se balance, contrebalance et il y a un effet voilà, d'équilibre qui se crée. Et chacun voilà, dit oui, non, comme ça. Enfin, ça se passe comme ça et c'est bien. Ouais. Les gens se rendent compte que voilà, l'histoire, c'est pas simplement apprendre des dates, c'est aussi réfléchir à des sujets qu'on choisit, qu'on est libre de choisir et de partager avec des professeurs qui s'impliquent.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Direction maintenant les médias alternatifs. Loin de l'image parfois poussiéreuse des supports traditionnels, des étudiants ont fait le pari de l'originalité. Noé, étudiant dans la culture, nous a parlé de son fanzine Marcel et des problématiques qui en découlent.
Alors le fanzine Marcel, c'est tout simplement, je saurais pas vraiment te donner la définition d'un fanzine, mais en fait c'est juste un support sur lequel on sort des textes ou des illustrations de manière quasi totalement libre avec une bande de copains. Et comme j'étais très impatient, je me suis dit allez, j'essaye de le monter en un mois et demi chrono. Et donc j'ai fait un appel. Avec les gens autour de moi, si tu veux, donc dans mes potes, dans les gens qui fréquentaient mon master. Je me suis dit, en métier de la culture, il y a bien quelques personnes, garçons ou filles, qui vont avoir envie d'écrire dans un truc là-dedans ou dessiner dans un truc comme ça. Et finalement, c'est pas tellement des gens de mon master qui ont répondu à l'appel, mais plutôt des amis proches de moi, qui sont certes étudiants, mais pas à Clermont-Ferrand. Et du coup, en voyant la tournure que ça prenait, je me suis dit, pourquoi pas un fanzine qui serait diffusé à Clermont-Ferrand. Rédigé par des étudiants ou presque étudiants, des gens qui viennent de sortir du statut et qui auraient trouvé un emploi, mais qui parleraient voilà, aux étudiants de Clermont-Ferrand. Quoi. On avait fait une très grosse réunion, on avait sorti énormément de noms, certains qui jouaient beaucoup sur l'humour noir, on avait beaucoup rigolé à faire ça, et finalement moi, j'ai repris aucun de ces noms-là, je voulais juste un truc qui soit un peu vulgaire, mais qui soit aussi un prénom. Et du coup, le Marcel, c'est un peu le truc que tu mets vite fait chez toi le dimanche. Enfin, ça dépend, mais ça dépend le genre de Marcel. Mais le vrai Marcel, voilà, c'est le truc que tu mets chez toi le dimanche pour le repassage. Et en même temps, c'est un pote qui a l'air un petit peu sympa, si tu veux. Pour parler, c'est le pote un petit peu bonhomme, quoi.
À l'heure du numérique, pourquoi t'as choisi le papier ?
Ah, c'est marrant parce que je me souviens plus du tout pourquoi on a choisi de faire du papier. C'est parti. Le premier édito de Marcel, il est là-dessus. Au final... Si tu veux, quand tu es sur Facebook, par exemple, tu peux très bien liker une marque de petits pois comme ton groupe préféré, si tu veux. Et au bout d'un moment, moi, je suis sur plein de plateformes de réseaux sociaux, en tant que musicien et en tant que personne lambda. Et au bout d'un moment, je trouve que les likes et les followings, tout le monde peut le faire, quoi. Ça n'a plus vraiment de sens. T'as beau regarder la page de tes statistiques, tu sais pas vraiment qui lit ton fanzine, pourquoi il le lit, est-ce qu'il le lise vraiment, quoi. Enfin, je dis, tu sais pas vraiment, en tout cas, pour moi, qui écoute tes chansons, qui les écoute jusqu'au bout, qui les... Voilà. Donc pour moi, passer par une démarche papier, si tu veux, faire un fanzine papier, si je dépose 25 exemplaires à Gergovia à 3 endroits, et que je repasse le lendemain et qu'il en reste 4 ou 5, je suis certain qu'il y a des gens qui ont fait la démarche de prendre le fanzine, de le regarder, de le feuilleter et de le prendre avec eux. Et déjà, pour moi, c'est déjà une bien plus belle preuve, si tu veux, d'adhésion au projet, de retour, que des likes sur une page Facebook.
Selon toi, en quoi est-ce important pour des étudiants de s'impliquer dans des médias dits alternatifs, comme le fanzine ?
Si je regarde au niveau de ma propre, si tu veux, de ma propre expérience d'étudiant, ou même des gens qu'il y a autour de moi, finalement, que tu rejoignes une formation générale ou une formation professionnelle, le professionnel, il est quand même tenu loin des étudiants tout au long de la scolarité, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui arrive en licence générale d'histoire a de très bonnes compétences en histoire, peut-être géographie, mais voilà, le tangible, le concret derrière, il est peut-être pas si visible que ça. Mais c'est valable aussi pour les diplômes professionnels. Par exemple, moi, tu vois, j'ai fait un DUT, donc un diplôme pro, une licence pro. Après, je suis parti à l'étranger, et à l'étranger, j'ai fait un diplôme de management, mais qui était professionnalisant. Et quand je suis revenu ici, j'ai choisi un master pro. Et même avec toutes ces expériences professionnelles, si tu veux, de stage, de projet collectif, j'ai l'impression qu'on est encore super loin du terrain, et quand on va arriver, il va falloir quand même mettre le pied à l'étrier pour se mettre au niveau. Et moi, je pense que s'impliquer dans des médias alternatifs, comme le fanzine, comme tu me l'as dit, eh ben, c'est déjà rentrer dans du concret, c'est déjà mener un projet qui nécessite d'avoir des sous, qui nécessite de s'organiser, qui nécessite de la relecture, un regard critique, artistique. Donc, ouais, pour moi, c'est intéressant parce que, comme tu dis, alternatif, ça sous-entend que c'est indépendant, donc qu'il faut mettre de soi dedans.
Gabriel, étudiant en métier du livre, est revenu avec nous sur sa maison d'édition, La Maquerelle.
Alors, La Maquerelle, c'est un projet de micro-édition associatif, collaboratif et collectif aussi. C'est-à-dire qu'on publie des livres qui sont, ce sont des fanzines, qui sont centrés essentiellement sur les arts graphiques et la bande dessinée, mais pas seulement. On publie également de la photographie, des textes. Et ce sont des livres qui sont donc publiés à très peu d'exemplaires, maximum 200 exemplaires, en tout cas jusqu'ici. Et qui rassemblent des productions de plusieurs artistes différents, et qu'ensuite on fabrique à la main, donc, qui sont confectionnés et façonnés de façon artisanale, et qu'ensuite on commercialise et on diffuse nous-mêmes. C'est un projet qu'on a élaboré au printemps 2014, donc il y a un an maintenant. Le premier livre est sorti en septembre, le 12 septembre 2014, et on a fabriqué et conçu ce livre sur une période de 3 mois, en fait, pendant l'été 2014. Au départ, c'était pour en faire un seul. Et puis, ça a bien marché, ça nous a beaucoup plu. Donc, on a décidé de continuer. Et La Maquerelle, qui devait être un livre, est devenue une petite structure éditoriale. Alors, dans un premier temps, on se réunit pour choisir notre thème. Mmh. Ensuite, on le diffuse, on le propose donc via les réseaux sociaux essentiellement, ou via le bouche à oreille à des artistes qu'on souhaite voir participer, ou parfois aussi qu'on ne connaît pas. Dans un premier temps, on fixe une date limite pour l'envoi des participations, une deadline. Et une fois qu'on a reçu tout le contenu, c'est entre nous qu'on va choisir la meilleure forme à lui donner, qu'on va éditer, façonner, fabriquer le livre réellement ensuite entre nous, avant de le publier. Et on en envoie un à chacun des participants.
Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans l'élaboration du projet ?
Oui, tout le temps. Il y a tout le temps des difficultés. Pour le premier, on était quand même... aucun d'entre nous n'avait fait ça. C'était justement l'idée, c'était de se confronter aux problèmes liés à l'édition et d'appréhender toutes les étapes de la construction d'un livre. Donc des problèmes, il y en a tout le temps. Et on les contourne, on les résout, on bidouille pas mal, faut dire. On fait appel souvent au système D pour affronter les problèmes qu'on peut rencontrer. Ils sont essentiellement techniques. Beaucoup de problèmes sont liés à la fabrication du livre, donc là, il faut simplement un peu de jugeote, simplement, un peu de démerde, je dirais, pour contourner ces problèmes-là. Et après, il y a assez peu de problèmes qui se posent, finalement. Le plus compliqué reste peut-être la diffusion. Une fois que le livre est fabriqué, il faut continuer à communiquer, le montrer, réussir à le vendre pour rentrer dans nos frais, ce qui est important, parce que si on ne rentre pas dans nos frais sur un projet, on ne peut pas s'engager sur un nouveau.
Et maintenant, pour parler un peu plus de ton implication personnelle, qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer dans ce projet ?
Eh bien, j'avais repris mes études en métier du livre et du multimédia il y a peu, avec d'entrée l'idée de me diriger vers l'édition. Donc ce qui m'a motivé en lançant ce projet, c'était de me faire la main, de me faire une première expérience du monde de l'édition par moi-même, avant d'attendre les stages ou un premier emploi. Et l'idée, c'était vraiment de découvrir toutes les étapes de fabrication d'un livre, donc de la conception à la réalisation, en passant par la maquette, le façonnage, puis jusqu'à la commercialisation, la diffusion du livre.
On continue dans l'édition collaborative et associative avec Alicia de Cartoceros Éditions.
Qu'est-ce que c'est que Cartoceros ?
Alors, déjà, ça s'appelle Cartoceros Éditions, donc parce qu'on est une maison d'édition participative Cartonera. Donc, une Cartonera, c'est une maison d'édition alternative. Donc, c'est un concept qui vient d'Argentine et donc qui a été repris à Clermont-Ferrand par Nicolas Duraca et que nous, on a repris ensuite lorsqu'il a décidé de ne plus vouloir continuer l'aventure. En fait, c'est Juliana qui a eu cette idée brillante. Elle a pensé à un rhinocéros parce que nos livres vont avoir une couverture très épaisse, très rude, comme la peau du rhinocéros. Donc du coup, voilà, on s'est dit que c'était une belle métaphore de nos livres, cet animal-là.
D'après toi, est-ce que ce type de projet, notamment donc, des nouveaux moyens d'expression, favorise justement ce qu'on appelle, au niveau de l'actualité contemporaine, donc la liberté d'expression, notamment au sein du milieu étudiant ?
Alors oui, je pense évidemment que ça le favorise, que ça favorise la liberté d'expression, parce qu'on n'est pas soumis au marché traditionnel. Par exemple, nous, en tant que maison d'édition, on peut publier, on n'a pas de ligne éditoriale, voilà, on peut publier un petit peu ce qu'on veut, bien sûr, en restant toujours dans le respect de l'autre, des autres cultures. Mais je pense notamment à une page du carnet de voyage qui va sortir, qui est extrêmement critique contre le Brésil. Je pense que voilà, nous, on va publier ça et c'est en faveur absolument de la liberté d'expression. Et même si ça peut faire mal à la politique du gouvernement brésilien notamment, grâce à notre maison d'édition, ben on va faire entendre notre voix à ce propos-là.
Univox. Petite pause musicale avec 2080 et son titre Peggy 18. We'll be right back.
le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Les étudiants sont également présents sur les ondes, à travers notamment l'engagement associatif ou la création de web radio. De quoi montrer que l'espace radiophonique a encore de beaux jours devant lui.
Gaëtan, étudiant à l'IUT de Vichy, a partagé avec nous son expérience dans la web radio universitaire Rêve Radio.
C'est une web radio donc exclusivement diffusée sur Internet, donc qui a été créée par les étudiants de la licence Thaïs donc de Vichy, il y a environ 3 ans. Et donc voilà, on réalise des émissions en direct, on fait une programmation qui tourne 24 heures sur 24. Et le but, c'est justement d'attirer les étudiants, de les entraîner à parler derrière un micro, les faire devenir bénévoles aussi, parce qu'il faut bien la faire vivre. Donc voilà, donc c'est un travail qu'on poursuit d'année en année et on n'entend pas s'arrêter là, quoi.
Donc c'est un projet tutoré, comme on les appelle. Mmh. Est-ce que autrement la fac vous aide justement à développer ce projet-là, à développer ce format-là?
Eh bien, disons qu'on dispose d'un petit studio avec un minimum de matériel, donc on a pour mission d'en prendre soin, mais on peut formuler des demandes, donc bah, c'est directement ou à notre IUT ou à l'UBP.
Alors c'est pas vous qui avez décidé ce format-là.
Non.
quels sont un peu les intérêts et les désintérêts que peut apporter justement le format de la web radio?
Alors moi je dirais les intérêts, c'est que justement tu peux l'écouter où que tu sois, puisque maintenant vu que tu as ton ordinateur ou ton smartphone, bah, tu peux écouter facilement. Bon après le problème c'est que on s'est rendu compte que même si on publiait le lien, tu vois par exemple sur la page Facebook de la radio, les gens cliquent pas forcément pour aller écouter. Et c'est là qu'on se dit que quand même diffuser en FM ce serait un plus, parce que justement t'étais pas obligé d'aller sur internet pour écouter, parce qu'il faut faire, pour les gens c'est plus une démarche à faire en fait, même si c'est sur internet et que t'as l'habitude d'y aller, finalement pour eux c'est une démarche à faire et je pense que ce serait plus simple pour eux d'écouter sur leur poste, mais voilà, non ça a quand même un gros avantage, c'est que on peut diffuser d'où on veut à condition d'avoir une connexion internet. Et non, ça a moins de contraintes, disons, niveau législation aussi.
Les étudiants s'investissent également sur les ondes de Radio Campus Clermont, comme c'est le cas par exemple de Lucie et Pauline de l'émission Cinébox.
Cinébox, c'est une émission surtout sur l'actualité cinéma, sur les sorties cinéma, sur les news cinéma en général, les projets qui vont se faire, les futurs acteurs dans tel film, les franchises et... Voilà, en gros, des critiques aussi, des débats.
Pourquoi vous avez choisi un format radio pour parler de cinéma ou au lieu d'un format papier, par exemple ?
On a plutôt choisi la radio parce que c'est un média où il y a peu d'émissions cinéma, ou alors sur des grosses radios, comme France Inter, par exemple, qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Du coup, l'idée, c'était de faire une émission cinéma, un peu pour tout le monde, simple, ou que tout le monde puisse comprendre de quoi on parlait. C'est pour ça que souvent on explique les termes dont on parle. Voilà, on essaye de faire une émission tout public, ce qui n'est pas toujours facile.
Et est-ce que pour vous, du coup, c'est un complément par rapport à vos études ?
Totalement. Ah oui. Totalement. Moi, je sais que c'est marrant, hein, parce que c'est des choses qu'on pourrait faire de nous-mêmes, mais on se cultive vachement plus et on est vachement plus informé parce qu'on a l'émission toutes les semaines. Moi, par exemple, qui fais la météo, je suis obligée d'aller voir toutes les sorties toutes les semaines, de voir les bandes-annonces, de me renseigner, de voir les secrets de tournage, de voir tous les acteurs. J'ai retenu à peu près une dizaine de noms d'acteurs depuis le début d'année, alors que pour moi, c'est très dur. Maintenant, j'arrive à les associer parce que je suis obligée de faire des recherches sur eux, sur leur filmographie et ça fait des liens tout le temps. Et je sais que moi, ça m'aide énormément, en plus du coup, de mes études de cinéma, c'est un vrai plus la radio.
En quoi un projet dans la radio favorise-t-il la liberté d'expression au sein du milieu étudiant ?
C'est une autre manière de s'exprimer. Parce que je trouve qu'actuellement, on est beaucoup trop enfermé sur Internet. On va avoir tendance à s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur des forums, et on va pas forcément penser à s'exprimer autrement. Et du coup, je trouve ça bien de s'investir dans un autre média pour s'exprimer autrement, c'est différent.
Puis là, c'est pas pareil, c'est plus de la communication spontanée comme sur Internet, on est obligé de le préparer, et après, pendant une heure de notre semaine, on se pose et on parle, et des fois, nous, on est frustrés parce qu'on n'a pas réussi à dire tout ce qu'on voulait. Des fois, c'est vraiment différent, et c'est vrai que je pense que c'est un plus. Comme dit Pauline, on retourne un petit peu aux bases, quoi. La radio est un des premiers médias, donc du coup, maintenant, Voilà, nous on découvre ça aussi un peu par Radio Campus.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Au-delà de la promotion de la culture, certains médias permettent de mettre en lumière des revendications étudiantes.
C'est d'ailleurs le cas pour Sarah, Davy et François du journal militant L'UBP Enchaîné.
Dans ma promotion, donc art du spectacle, ça se voyait en L2 qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'allait pas. Nos professeurs, en début de cours, n'arrêtaient pas de nous parler des problèmes de la fac. Et donc, il y a commencé à y avoir un gros malaise, en fait. Et en L1, on en parlait un peu, mais sans plus. Et en L2, ça nous a vraiment éclaté à la figure. Et j'avais vraiment envie de faire déjà un petit article sur ça. Mais au début, c'était pas l'idée de faire un journal. Puis ensuite, je me suis dit, quand même, pour le transmettre ça, c'est mieux de le faire par journal et avec d'autres sujets, d'autres articles sur la mobilisation. Pourquoi on fait ça aussi également pourquoi j'ai eu cette réflexion-là.
C'est vrai que ce format classique de journal pour transmettre de l'information, bah c'est bête, mais ça marche. Tout le monde lit encore le journal. Et en plus, on a les journaux de la montagne qui sont à disposition. Donc, on les avait enlevés et remplacés par l'UBP enchaîné. C'était un format qui nous a tout de suite plu. Donc, on s'est beaucoup impliqué dedans. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose de large, puisque tout le comité de mobilisation y a participé.
Et aussi, quand un étudiant reçoit un tract, ça reste un tract. Et il va le lire ou il va pas le lire, et il aura plutôt tendance à le jeter dans la première poubelle qu'il va croiser. Cependant, quand il va tomber sur un journal qui va parler de ce qui se passe dans sa fac, ça va tout de suite l'interpeller. Il va trouver ça inhabituel et le format de base va l'intéresser. Ça va l'amener à s'interroger. Ça va l'amener plus à le lire qu'un tract, mais même s'il ne le lit pas, ça l'aura interpellé, ça l'aura marqué, il se sera souvenu qu'il aura vu ça à la place de la montagne, il aura vu l'UBP enchaîné. Et du coup, c'est important de marquer les esprits dans ce genre de contexte-là, et du coup, l'efficacité du support nous permet de le faire.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cet Univox clermontois touche à sa fin. Qu'il s'agisse de journaux universitaires, de créations alternatives, de supports radiophoniques ou d'outils militants, les médias étudiants ne cessent de nous surprendre par leur diversité et par la passion de ceux qui les font vivre.
Si l'on peut souvent penser que le numérique a pris le pas sur les méthodes de communication traditionnelles, la recrudescence des créations artisanales dans le milieu étudiant montre bien l'ingéniosité des nouveaux acteurs de l'espace médiatique. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce reportage. À bientôt pour un prochain Univox.